Suivre est une rediffusion.
Littérature sans frontières, une terre, un auteur.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Destination, le Mali.
Bonjour Djadjé Dambélé.
Bonjour.
Vous signez votre première fiction sous le titre « Le duel des grands-mères », paru aux éditions Jean-Claude Lattès, un récit où vous mettez en scène un petit garçon de 11 ans, Ahmet, qui vit à Bamako avec sa mère et sa famille, son père est en France, et qui va faire l'apprentissage de la vie à travers les différentes langues, plus de 10 en comptant le français. C'est l'ouverture même de votre roman. Est-ce que vous voulez bien, Djadjé Dambélé, nous lire cette première phrase ?
À la maison, tout le monde parle Songhai, Peul, Bambara, Soninké, Senufo, Dogon, Mandinka, Tamashek, Hassania, Wolof, Boa. Mais à l'école, personne n'a le choix, il faut parler français.
Et vous qui êtes né au Mali également, vous parlez combien de langues ?
J'en parle couramment deux, le Soninké et le Bambara.
Donc, c'est qui tout le monde ? Qui parle ces 10 langues ?
Bah, le narrateur essaie d'identifier en fait non seulement les deux langues qu'il parle lui, mais également les langues qu'il entend chez les voisins, à l'école ou dans la rue, puisque c'est un environnement assez multiethnique où chaque personne, ou du moins chaque famille, possède deux langues, c'est-à-dire que le Bambara à Bamako est la langue la plus parlée, la plus comprise, et à côté de cela, ceux qui viennent d'autres régions parlent une langue en plus.
Et puis donc le français, avec cette formule étonnante, il faut parler français. Alors, est-ce que c'est une invitation ou c'est un ordre ?
C'est un ordre. En tout cas, le narrateur le voit comme tel. Il arrive à l'école française pour sa première année. Donc, il doit apprendre le français lentement, étant donné que dans l'enseignement fondamental au Mali, les nombres d'années correspondent au nom de la classe. Donc, la première année, la deuxième année et la troisième année. Donc, il arrive qu'au Mali, entre ces deux classes, entre la deuxième année et la troisième année, un objet fasse son apparition. Cet objet-là, c'est les symboles. Ça peut être un petit bois ou en tout cas quelque chose qui a une forme carrée sur lequel on inscrit le montant de l'amende qui varie de 10 francs CFA à 25 francs CFA. Donc, le principe est que les enseignants incitent, sinon obligent, les élèves à s'exprimer le plus possible en français, que ce soit dans la cour de l'école, que ce soit même en dehors de l'école. Je m'amuse à appeler ça des juridictions, mais il y a des écoles où même lorsqu'on rencontre un camarade en dehors des heures de cours, il faut parler le français, sinon autrement, si celui-là est le dernier à posséder le symbole, il peut nous le refiler, et ce sera à nous de payer l'amende qui correspond à cela.
C'est une très sérieuse injection scolaire qui donc, comme on le découvre en vous lisant et comme vous venez de nous le confirmer, s'accompagne d'une forme de punition. Vous avez connu ça vous aussi à l'école, Djadjé Dambélé ?
Oui, absolument, je l'ai connu. Bon, peut-être pas comme le narrateur parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour mon cas, mais j'ai très vite appris le français, donc j'arrivais à y échapper quelques fois. Enfin, il est arrivé que je me fasse piéger. C'est-à-dire que par inattention ou en tout cas par manque d'attention, que quelqu'un me parle automatiquement en bambara et que moi je réponde automatiquement en bambara et que je me retrouve avec les symboles.
Vous ne trouvez pas que c'est quand même une façon d'apprendre le français qui est un peu trop rigoureuse, c'est-à-dire exclure les autres langues alors qu'il devrait y avoir une circulation naturelle? Ce que je veux dire, c'est que à long terme, ça peut provoquer l'effet inverse.
Oui, enfin, je suis assez d'accord dans la mesure où j'ai même remarqué que chez certains de mes camarades, après à cette époque, je n'avais pas la capacité d'avoir toute cette réflexion. Mais là maintenant, je peux dire que ça les a, ça fait l'effet inverse. Ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ça dit que ils ne parlaient pas cette langue. Ils avaient déjà les complexes de faire des fautes en français. Si en plus de cela, ils sont obligés de le parler tout le temps alors que ce n'est pas une langue dans laquelle ils ont une conversation fluide. Donc, c'était complètement le silence. Ils ne disaient rien. Ils mimaient les choses. Ils essayaient de parler en signes. Et après, à la maison, ils parlaient normalement dans les langues qu'ils comprenaient.
Bon, revenons à votre roman, Le Duel des Grands-Mères, parce que contrairement à vous, donc, Ahmet ne fait pas de grands progrès. En tout cas, lui, il fait un blocage et il fait l'école buissonnière, tout simplement, parce que, dit-il, et ça c'est une phrase très importante, « je veux retrouver ma langue ». Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez, Djadjé Dembélé, ce que ça veut dire, ce qu'il faut entendre, qu'est-ce que c'est sa langue, que ce soit pour lui, pour vous ou pour nous en général.
Oui, justement, enfin, je ne pense pas avoir en tout cas une réponse ferme et définitive à cette question, mais pour moi, une langue, en tout cas la langue qu'on pense être la nôtre et la langue dans laquelle on est capable d'avoir une conversation, de penser, de réfléchir, et en ce qui me concerne, je pense aussi, à partir du moment où on commence à rêver dans une langue et que des personnes qui ne parlent pas cette langue dans les rêves s'expriment correctement dans cette langue-là, ça devient, malgré nous, une langue qui nous appartient et à laquelle on appartient.
Donc, sa langue, c'est une langue qu'on choisit ou c'est une langue qui nous choisit ?
Ah, je dirais les deux, parce qu'on peut choisir une langue. Moi, j'ai bien fait la tentative avec l'allemand. Et là, jusqu'à présent, je parle très mal l'allemand, je ne comprends presque pas. Une langue qui m'a choisi, je ne sais pas, mais à un moment donné, j'ai essayé d'apprendre l'arabe, parfois contre mon gré, et je n'y suis pas arrivé. Donc, je pense que il faut aimer une langue pour pouvoir la parler, mais il faut aussi que la langue nous choisisse. Je ne sais pas du coup comment concrétiser cela, mais je pense que ça se fait dans les deux sens.
En tout cas, le jeune Ahmet, même s'il ne va pas à l'école, ça ne l'empêche pas de lire, dit-il, des romans. Et d'écrire dans cette langue dont il dit aussi que sa maman ne pourra pas lire. Est-ce que c'est un crève-cœur, en effet, selon vous, de ne pas pouvoir être lu par ses parents ?
La question m'a été posée plusieurs fois, parce que j'ai offert un exemplaire à ma maman, qui ne sait pas lire le français. Donc, des gens m'ont suggéré de lui lire, mais je dis, mais elle ne comprend pas le français. Donc, peut-être que, oui, ça crée un malaise, en tout cas. Je ne sais pas si c'est un crève-cœur, mais en même temps, peut-être que les choses sont bien comme elles sont. C'est-à-dire que, certes, cette mère ne sait pas lire le français, mais elle aussi, elle a son imaginaire qui est habité par des contes, par des légendes, par des histoires qu'elle connaît. Donc, ça permet en tout cas de sauvegarder cette part d'oralité qui est chez la figure de la mère.
Alors, ce lien avec la langue française, il vient aussi du côté du père, d'Ahmet, parce que c'est lui qui a voulu que son fils soit scolarisé, d'autant plus que, quand lui-même était enfant, en 1969, on lui a interdit l'accès à l'école. Pourquoi ?
Oui, là, je l'avoue, c'est assez inspiré du coup de l'histoire de ma famille. Et la question, en tout cas à cette époque, c'était que les gens avaient encore une perception négative de la langue française, c'est-à-dire que c'était en 69, donc 9 ans après la décolonisation. Donc la question était plutôt d'aller dans une forme de rupture vis-à-vis des anciens colons. Donc, et étant donné aussi de l'autre côté, en tout cas de ce qu'on m'en a expliqué, pendant l'époque sociale, il y avait déjà une espèce de sentiment chez les populations comme si la colonisation n'était pas totalement finie parce que l'élite qui avait remplacé les colons parlait comme eux, s'habillait comme eux, faisait tout comme eux. Donc finalement, l'endroit où ils apprenaient à faire tout ça était l'école. Donc cet endroit-là était assez mal vu par certaines populations qui ne voulaient pas que leurs enfants puissent ressembler aux blancs.
Donc la génération de votre papa, par exemple, a subi les conséquences de ça.
Oui, tout à fait. Après, il y a eu des exceptions. Il y a eu des gens de sa génération qui ont quand même, disons, la chance d'aller à l'école. Mais bon nombre d'entre eux. Après, il y avait aussi des questions assez pratiques. C'est-à-dire qu'un garçon, c'était une main-d'œuvre supplémentaire pour la maison. Donc, le temps de l'école, d'aller à l'école le matin et le soir, il n'y a personne pour aider à couper le bois, il n'y a personne pour aider à puiser de l'eau. Donc, il y avait aussi ces côtés pratiques qui faisaient que les parents disaient « Bon, je n'ai pas envie d'envoyer mon enfant à l'école pour me retrouver à faire tout seul les choses. »
En revanche, la maman d'Ahmet, qui, elle, avait 7 ans en 1980, personne ne lui a proposé d'aller à l'école. Quand est-ce que ça a changé que les filles ont eu le droit de s'asseoir en classe, Djadjé Dembélé ?
Bon, je ne suis pas très bien renseigné sur cette histoire, mais de ce que j'ai connu, en tout cas des gens de ma génération, je pense qu'il y a eu beaucoup vraiment d'initiatives politiques, mais aussi sociales en faveur de la scolarisation des filles. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était entre 2008 et 2010, il y avait même des bourses spécifiques pour les jeunes filles, par exemple, qui venaient de milieux ruraux, etc. Et je pense que ça a permis de faire évoluer les choses. Et pour prendre l'exemple sur ma mère, le fait aussi à l'époque, je ne sais pas si je peux citer son nom, mais Adama Konaré, qui est l'ancienne première dame du Mali, que les mamans aimaient dire qu'elle était plus cultivée que son mari, était plus savante que lui aussi. Enfin, avoir des figures féminines fortes, si on peut le dire, a permis aux gens de comprendre qu'une fille aussi peut aller à l'école et a la possibilité de faire tout ce qu'un homme peut faire.
Évidemment. Alors revenons à votre roman Djadjé Dembélé, puisque on suit les aventures d'Ahmet, ce petit garçon à la fois très attachant, mais alors un peu bagarreur, évidemment. Et finalement, eh bien, il est envoyé au village de ses parents, histoire de lui inculquer les traditions. Mais là, obstacle, tout le monde parle soninké, qui est la langue du peuple éponyme, quand lui est plutôt fluide en Bambara, la langue parlée à Bamako. Est-ce que les deux cultures sont si différentes que ça, Djadjé Dembélé?
Je ne dirais pas qu'elles soient différentes, parce que la langue soninké et la langue Bambara appartiennent au même groupe, enfin à la même famille de langues. Ce qui se joue ici, c'est surtout la différence entre la ville et le village. C'est-à-dire que enfin, la langue, elle est là, bien sûr, elle est aussi une sorte de barrière, mais c'est surtout que Amé...
Ah, vous dites Amé, vous? Oui. Et moi, je dis Ahmet depuis le début et vous ne m'avez même pas
Bon, il y a plusieurs déclinaisons, en fait, ça vient du prénom Mohamed, que certains prononcent Mahamed, Mohamed, Ahmed, Amé. Donc oui, les deux formes sont possibles. Moi, je le prononce Amé puisque je sais de le faire avec l'accent soninké, mais Ahmet aussi.
Bon, merci. Donc voilà, je peux continuer à l'appeler Ahmet.
Oui, tout à fait. Voilà. Ce que je disais, c'est que voilà, Amé a plus de mal avec le fait de devoir vivre au village, sans eau courante, sans électricité, sans tous les conforts, en fait, finalement, qu'il avait en ville. Et c'est vrai que la langue lui pose problème. Et il parle cette langue, il comprend, mais ce n'est pas fluide pour lui. Et aussi, il a surtout le réflexe de répondre aux autres en Bambara, ce qui est très mal vu au village, lorsqu'on est censé être soninké et parler le soninké.
La langue, c'est une question aussi musicale. Donc, on va faire une pause et écouter un morceau. Alors, j'ai noté plusieurs références dans votre roman, Djadjé Dembélé. Ça va de Oumou Sangaré à Djéné Kassek, en passant par Lassana Awa. Ah ouais. Quelle est votre chanson préférée de ces artistes femmes, d'ailleurs, principalement?
Oui, j'ai une artiste préférée. C'est vrai qu'Oumou Sangaré a fait des très belles chansons à l'époque, qui d'ailleurs étaient des chansons assez engagées, assez féministes en tout cas pour l'époque. Quant à Djéné Kassek, c'est plutôt des chansons également dans ces registres-là. Et Lassana Awa, il porte un prénom masculin, un féminin, mais c'est un homme. C'est un chanteur et musicien soninké assez connu, donc il a fait des chansons plutôt de variété pour danser.
Alors, quel est votre choix?
Oumou Sangaré.
Frisson d'amour, par exemple?
Oui.
Alors, on l'écoute.
Mana fonene samiyan nene tedion
Et sur ce morceau, frisson d'amour, nous poursuivons sur RFI dans Littérature sans frontières notre conversation avec Djadjé Dembélé, qui vient de publier son premier roman sous le titre « Le duel des grands-mères » aux éditions Jean-Claude Lattès. Et justement, nous y arrivons à ce duel, puisque Ahmet, envoyé un peu en punition au village dont sont originaires ses parents, va faire connaissance de sa première grand-mère et plus tard de sa deuxième grand-mère, lesquelles ne se parlent pas pour des secrets de famille que nous ne dévoilerons pas ici. En tout cas, en creux, c'est aussi des portraits de femmes maliennes que vous faites dans ce roman, qui à la fois sont très fortes, piliers de famille, durs au labeur, mais aussi parfois des victimes. Et on va explorer cette question un peu plus longuement dans un instant. Vous trouvez en effet qu'elles ne sont pas assez reconnues et que c'est à elles que vous vouliez rendre hommage d'abord ?
Oui, surtout je voulais rendre hommage à ces figures de grand-mère, puisque ce sont les femmes. Il y a aussi cette question sous-jacente qui arrive, mais c'était surtout le fait que j'ai l'impression qu'en tout cas dans ma génération, on a souvent tendance à considérer les grands-parents comme des clowns. Enfin, c'est vrai qu'ils les sont.
Mais... Comment vous dites, des clowns ?
Oui. Oui, c'était la petite blague contre les mamies et les papis, mais on les aime en tout cas.
C'est très affectueux alors.
Oui, mais ce que je voulais dire par clown, c'est qu'on ne les prend pas assez au sérieux, ou en tout cas, après c'est normal avec les relations qu'on peut entretenir, il y a une forme de plaisanterie parfois qui s'installe, donc forcément la grand-mère devient la personne la plus amusante, et les gens ont même tendance à penser qu'entre le bâton et la carotte, elles sont plus carotte que bâton. Mais je pense aussi qu'une grand-mère, en tout cas celle que j'ai connue, aide beaucoup aussi dans l'éducation. C'est-à-dire que parfois, avec le temps, je pense, elles gagnent en sagesse. Donc, elles arrivent à faire à leurs petits-enfants des choses en douceur que les parents voudraient qu'ils fassent avec un peu plus de contraintes.
Donc, c'est un hommage aux grands-mères.
Oui.
Et vous l'avez connu, ce retour au village et cette affection donnée en effet par une grand-mère qui est peut-être un peu moins sévère que sa propre maman, qui protège, qui accompagne, qui console, qui soigne.
Oui, absolument. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que pendant mon séjour au village en 2008, lorsque je suis arrivé, on m'a présenté beaucoup de grand-mères. C'est-à-dire que non seulement ma grand-mère paternelle ou maternelle directe était ma grand-mère, mais leurs cousines étaient mes grand-mères, leurs grandes sœurs et petites sœurs étaient mes grand-mères, et les co-épouses de mes grand-mères également étaient mes grand-mères. Donc j'étais plutôt étonné mais ensuite je me suis dit, mais autant que faire avec toutes ces grand-mères, je serais très content.
Mais c'est lié à quoi alors cette multiplication des grand-mères ? Ça veut dire que toute figure féminine un peu plus âgée qu'un enfant est potentiellement une grand-mère ?
Je pense que surtout qu'à partir du moment où une femme a des petits-enfants, ou en tout cas est à l'âge d'être grand-mère, et qu'elle vit dans la famille, bah, elle considère les petits-enfants des autres comme étant ses propres petits-enfants. Et moi, personnellement, je n'ai connu que ma grand-mère maternelle, et toutes les autres grand-mères, en tout cas, qui étaient gentilles avec moi, qui m'ont bien nourri, qui prenaient soin de moi, étaient plutôt des petites sœurs à ma grand-mère, ou des cousines éloignées à ma grand-mère.
Donc vous étiez chouchoutée.
Oui, j'avais beaucoup de petites femmes.
Comme un coq en pâte. Et est-ce que vous avez connu, vous, alors ce duel entre le soninké et le bambara ou pas ?
Bah, disons que je l'ai connu parce que à la maison à Bamako, les parents parlent le soninké. Et il se trouve qu'on a des voisins qui parlent le bambara et dans la rue, on parle le bambara. Et avec mes petits frères et sœurs et cousins, on avait le réflexe de tout le temps parler en bambara, ce qui déplaisait un tout petit peu à certains membres de la famille qui, eux, venaient du village. Donc, le fait de nous voir parler bambara, en fait, représentait pour eux une forme de déracinement vis-à-vis du village, comme si pratiquer une autre langue effacerait d'office l'identité qui était la nôtre.
Et c'est ce que vous voulez contrer justement dans ce roman, dire que les langues ne s'opposent pas, les cultures ne s'opposent pas, mais au contraire qu'elles se complètent, n'est-ce pas ?
Oui, absolument, absolument. Surtout que, pour moi, je vois cela comme une addition, une multiplication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de substitution. Moi, si je peux prendre l'exemple sur moi ou quelqu'un d'autre qui est dans la même situation, je pense que lorsqu'on parle plusieurs langues, ou en tout cas lorsqu'on a été nourri par plusieurs cultures différentes, il n'y en a pas une qui remplace l'autre, elles sont complémentaires et cela ne peut que nous enrichir.
Bien entendu. Alors revenons à la question des femmes qui est importante parce que subrepticement, vous abordez un sujet douloureux avec l'exemple d'une épouse frappée tous les jours par son mari. Et quand Ahmed, pardon, mais je l'ai toujours appelé Ahmed dans ma tête, alors je vais continuer de l'appeler Ahmed.
Oui.
Quand il demande à sa grand-mère pourquoi elle n'est pas allée la défendre, elle répond « Ici, ce n'est pas Bamako ». Donc il y a deux informations, hein, dans cette histoire. Un, on sait quand une femme est battue, mais deux, on ne réagit pas de la même façon selon qu'on vit ici ou ailleurs. Est-ce que vous voulez nous expliquer tout ça, Djadjé Dembélé ?
Oui. La différence est très banale, en même temps très importante. C'est-à-dire qu'au village, le chef de village et ses courtisans, ses substituts, en tout cas au tribunal, à la police, dans ces mêmes très mal vus pour une femme d'aller voir la police ou d'aller se plaindre ailleurs que dans sa famille qui vont rapporter le problème devant le chef de village. Alors qu'en ville, c'est assez difficile, mais lorsqu'on compare la situation en ville et en village, en ville, la femme a tout à fait la possibilité d'aller voir les forces de l'ordre ou en tout cas les femmes en ville sont assez plus d'autonomie, plus de possibilités de se défendre vis-à-vis de cela. Et je pense qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, surtout, en tout cas pour les femmes qui habitent en ville, elles peuvent facilement avoir du soutien moral, psychologique et aussi parfois du soutien économique pour pouvoir en tout cas s'éloigner du mari ou du compagnon toxique.
Mais ça, c'est un roman féministe du coup, parce que quand vous écrivez « Si ton mari te frappe, il ne faut pas crier », forcément, le lecteur, la lectrice réagit en disant bah, « si, justement, il faut crier ». C'est un peu ce que, vous, non pas que vous suggériez, mais en tout cas qu'il faut changer les choses.
Je suis absolument pour qu'il faut changer les choses. Après, à certains moments, il y a des personnages qui ont des propos justement antiféministes, ou en tout cas même des personnages féminins qui ont incorporé cette pensée de dire que la femme doit se soumettre, doit se taire, elle ne doit jamais se plaindre. Et justement, en réprimant ces mots, c'est plutôt, en tout cas, le sens inverse que je voulais démontrer, c'est-à-dire que, certes, la religion est là, la tradition est là, mais aucune, ni la religion n'autorise la violence, ni la tradition, et que personne, en tant qu'être humain, ne devrait avoir à subir cela.
Oui, vous soulignez en effet qu'il y a une forme d'injustice envers les femmes, et notamment à travers une légende très belle d'une jeune femme qui se rebelle, qui malheureusement sera punie, mais néanmoins qui se sera rebellée et aura montré peut-être le chemin. On a commencé cette émission, Djadjé Dembélé, avec la question des langues. Donc on va finir, mais cette fois, la langue que vous écrivez, et qui ici est remarquable, très drôle, très enjouée, très caustique, très enthousiasmante, émaillée de mille et une expressions qui ne sont pas traduites, qui sont dans quelle langue d'ailleurs ?
Il y en a qui sont en soninké et d'autres en bambara, et c'est fait exprès de ne pas les traduire.
Ni de signaler de quelle langue elles sont issues. Et pourquoi c'est fait exprès ?
À un moment donné, la question s'est posée justement de différencier les expressions qui étaient plutôt du soninké ou du bambara. Et je me suis dit que ces deux langues, en fait, ce sont deux langues qui m'appartiennent et auxquelles j'appartiens, au même titre que le français. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas, en tout cas pour moi, peut-être que le lecteur serait un peu frustré, mais s'il parvient à comprendre, c'est que j'ai voulu faire, en tout cas, dans cette démarche, la frustration s'éclipsera. C'est surtout de mettre au même niveau de langue. Après, bien sûr, pour la typographie, on a essayé de les mettre en italique. Mais c'est de mettre toutes les langues que je parle au même niveau. Il n'y en aura pas une qui sera plus belle ou plus intéressante que l'autre.
Effectivement, les trois sur le même plan, la même valeur, La frustration, elle vient peut-être juste qu'on aimerait savoir un peu plus ce qui se cache derrière certaines expressions qui m'ont l'air très réjouissantes. Mais en effet, on comprend très bien dans ce que vous racontez comment ça se mêle. Il me semble que vous êtes interprète, vous-même, Djadjé Ndembélé, oui. De quelle langue et pour qui ?
C'est une association d'aide aux migrants. Donc, j'ai traduit du français vers le Bambara et le Soninké et vice-versa. Et étant donné également que la variante malinké en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Djula est intercompréhensible avec le Bambara, il m'arrive également d'avoir des prestations pour cette variante-là.
Donc, vous venez en aide aux migrants. C'est une magnifique action que vous faites là. Et pourquoi ça vous a paru nécessaire de faire ça ?
Bah justement, parce que je viens d'une région, enfin en tout cas je suis originaire d'une région au Mali, Kaï, où il y a beaucoup d'immigration, malheureusement ou heureusement. Et la plupart des personnes qui sont candidats à l'immigration ne parlent pas correctement le français, en tout cas n'arrivent pas à s'exprimer devant l'administration française. Et c'est que je trouve intéressant dans ce travail, c'est de pouvoir casser la barrière entre l'agent français, ou en tout cas l'officier français, et l'usager étranger qui a des choses à raconter sur son parcours, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il envisage comme avenir pour lui en France, mais qui n'arrive pas, en tout cas pour le moment, à le dire en français.
Vous êtes en France depuis un certain nombre d'années. Vous avez suivi un master de création littéraire à Paris, dont vous êtes diplômé d'ailleurs, Djadjé Ndembélé. Est-ce que c'est là qu'est née votre envie d'écrire de la fiction, ou vous y êtes allé justement parce que vous sentiez que vous aviez plein de choses à écrire et que vous vouliez peut-être être un peu guidé, aidé ?
Oui, j'avais déjà envie d'écrire, enfin, disons que j'écrivais déjà, mais pas de manière régulière. En tout cas, j'avais quelques fragments. Ce master-là, je l'ai connu, ensuite j'y suis arrivé, mais je peux dire que c'est là, en tout cas, que la question de la langue s'est véritablement posée, parce que moi, en arrivant en France, je parlais le français, donc il n'y avait pas eu ces problèmes-là, j'arrivais à communiquer avec les gens, mais c'est lorsque je suis arrivé dans ce master que la question s'est posée finalement avec mes autres camarades qui avaient pour langue natale le français. Ce n'était pas mon cas, donc je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui est assez différente, donc il va falloir creuser ces sillons-là pour voir pourquoi déjà j'ai le réflexe d'écrire directement en français alors que ce n'est pas la seule langue que je parle.
Et alors, quelle est la réponse à cette question ?
Je ne pense pas. J'ai encore un doute, mais je pense que c'est parce que justement c'est la seule langue que j'écris, en tout cas correctement, parmi les trois langues que je parle. J'essaye de réapprendre à écrire le soninké. Avec l'alphabet latin. Le Bambara, je sais à peu près l'écrire avec l'alphabet latin, mais il y a un autre alphabet qui s'appelle l'unko, que je n'ai malheureusement pas encore la maîtrise, mais ça fait partie de mes projets, en tout cas.
Donc, plein de choses à explorer encore.
Oui.
Merci beaucoup. Et en attendant, on lit évidemment ce premier roman qui en dit certainement beaucoup sur votre enfance, mais pas seulement, puis surtout cette richesse incroyable de multilinguisme qui court partout dans le pays. Merci beaucoup, Djadjé Ndembélé, d'être venu au micro de RFI aujourd'hui nous parler de ce premier roman, Le Duel des grands-mères, publié aux éditions Jean-Claude Lattès.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.